On a un débat sur les orientations du règlement local de publicité. C'est un débat sans vote. Je demande donc à Monsieur Koenig de rapporter. Monsieur Koenig.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil municipal a décidé d'engager la procédure de révision de son règlement local de publicité. Une première phase a constitué à examiner la situation de la ville de Metz en la matière, à tenir des réunions de concertation avec les services de l'État, les personnes publiques associées, les professionnels de l'affichage, les associations, et à entendre les administrés lors d'une réunion publique qui s'est déroulée le 5 février. Par ailleurs, les membres de la commission cadre de vie réunie le 4 février ont pu échanger avec le cabinet d'études prestataire après une présentation du diagnostic. Donc il convient ce soir de proposer au Conseil municipal de débattre sur les orientations générales de la révision de ce règlement, une étape qui est prescrite par le Code de l'urbanisme et qui se tient dans les deux mois précédant l'arrêt du projet de règlement. Donc je rappelle que la révision de notre règlement local de publicité, qui date de 1992, se justifie principalement pour deux raisons. D'une part, l'adaptation à l'évolution de la réglementation nationale applicable à la publicité et aux enseignes, qui a été modifiée donc par la loi du 12 juillet 2010, plus connue sous le nom de Grenelle 2. Et d'autre part, la nécessité de mettre en place les dispositions nécessaires en cohérence avec l'extension de notre secteur sauvegardé, qui a été décidé par vous-même, Monsieur le maire, et le Conseil municipal. Alors, pour amorcer le débat, on va vous proposer de regarder certaines photos. Il y a un PowerPoint d'un diaporama qui a été diffusé dans les groupes et qui a été aussi transmis, qui est possible de télécharger. Donc, le calendrier, nous sommes donc au niveau du débat d'orientation. L'objectif, c'est de vous présenter un projet définitif. On va dire d'approuver le nouveau règlement en décembre 2015, une fois que toutes les procédures de concertation seront finies. Alors, quelques rappels, le Code de l'environnement réglemente la publicité extérieure pour assurer la protection de l'environnement et du cadre de vie naturel ou urbain. Donc, vous avez un schéma qui est présenté. Sont concernés par le règlement local de publicité tous les dispositifs visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, qu'ils soient installés sur les propriétés privées ou sur le domaine public. Donc ne sont pas, par exemple, concernés la gare de Metz ou le centre commercial Saint-Jacques. Je précise aussi que le règlement ne contrôle pas le contenu des messages au titre de la protection de l'environnement. Ce sont d'autres codes qui contrôlent effectivement le contenu des messages, que ce soit par exemple sur le tabac ou sur l'alcool. Trois types de dispositifs sont concernés par le règlement local de publicité. Alors on vous fait défiler des différents exemples de dispositifs. Donc d'abord, dans un premier temps, les enseignes. Donc constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Ensuite, les préenseignes. Donc la définition dit que constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. En agglomération, les préenseignes sont soumises au régime de la publicité. Et enfin, troisième dispositif, les dispositifs publicitaires. Constitue une publicité à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Alors je préciserai aussi que l'affichage d'opinion est considéré comme une forme de publicité. Est également réglementée la publicité admise au titre accessoire sur mobilier urbain. Alors on vous fait passer une diapo avec différents types de mobilier urbain avec des supports publicitaires, donc ces mobiliers urbains installés sur le domaine public. Il s'agit des abribus, des kiosques à usage commercial, des mâts et des colonnes porte-affiches qui sont réservées aux manifestations, et des mobiliers destinés à recevoir des informations à caractère général mais qui peuvent supporter une superficie égale de publicité commerciale. Le règlement local de publicité municipale ne traite pas des lieux situés hors agglomération où la publicité est interdite. Il faut noter que hors agglomération, les préenseignes dérogatoires, celles qui annoncent par exemple les hôtels, les restaurants, seront supprimées après juillet 2015 par l'application du loi Grenelle 2. Donc en fait, le législateur a décidé d'harmoniser tout ça par une signalisation d'information locale qui sera beaucoup plus agréable quand vous circulerez aux abords des collectivités. Alors en termes de préconisation pour Metz, pour le secteur sauvegardé, en matière de proposition, on a donc à Metz un secteur sauvegardé extrêmement qui a été étendu à 163 hectares, c'est un des plus importants de France. Et donc les préconisations que l'exécutif propose seraient d'admettre au sein du secteur sauvegardé tous les mobiliers urbains publicitaires, donc les colonnes porte-affiches qu'on voit sur la photo centrale, qui existent déjà à Metz et qui sont extrêmement esthétiques, les abris bien sûr, les abris bus, les mâts et porte-affiches, et tout ce qui est mobilier d'information municipale de limité à 2 mètres carrés qu'on a en bas à gauche. Et éventuellement autoriser ce qui serait kiosque à usage commercial. On n'en a pas à Metz, mais qui sait, peut-être qu'un jour on aura ce type de proposition. Serait aussi admis en secteur sauvegardé la publicité sur les palissades de chantier. Alors il faut savoir que le financement par la publicité permet effectivement aux propriétaires qui engagent des rénovations du coup de bénéficier provisoirement effectivement de recettes. Ça aide à rénover les façades. Et puis seraient aussi autorisés les emplacements dédiés à l'affichage d'opinion et bien sûr aux activités associatives qui existent déjà bien sûr sur le secteur sauvegardé actuellement. Et enfin, un dernier point qui serait autorisé sur le secteur sauvegardé, le micro-affichage sur baie commerciale, mais avec donc une superficie maximum de 0,50 mètres carrés par établissement. Hors du secteur sauvegardé, nous proposons que le futur règlement délimite des zones de publicité réglementées. Un traitement spécifique serait proposé pour les zones d'activité commerciale, et il faudra donc intégrer des zones qui n'existaient pas en 92, telles que mezzanine et la future zone d'activité Muse, et aussi établir des restrictions aux abords du centre Pompidou, puisque le centre Pompidou n'est pas sur le périmètre de secteur sauvegardé. Dans les zones ouvertes à la publicité, donc qui découlent du règlement de 92, il existe aujourd'hui plus de 300 dispositifs publicitaires, essentiellement pour la plupart de 12 mètres carrés. Et les nouvelles règles nationales sont beaucoup plus protectrices que les précédentes. Alors il y a une limitation de 12 mètres carrés et certains dispositifs de 7 mètres carrés en matière de densité ne seront bien sûr plus autorisés dans le cadre de la réglementation nationale. Il faut aussi préciser que le règlement local ne peut en aucun cas aboutir à une interdiction totale et absolue de la publicité. Dans ces zones ouvertes à la publicité seront aussi bien sûr admis l'affichage d'opinion, la publicité supportée par les palissades de chantier et tous les mobiliers urbains publicitaires. Concernant les panneaux publicitaires, la nouvelle règle nationale limite le nombre de dispositifs par unité foncière. Ainsi, entre 0 et 40 mètres de distance, un seul dispositif sera admis et un dispositif de plus par tranche de 80 mètres supplémentaires, donc sur la même unité foncière. Dans les zones où les dispositifs scellés au sol seront admis, le règlement local de publicité pourrait ajouter des règles interdisant de coller des panneaux en façade. Alors on a le cas dans un certain endroit à Metz où on a effectivement ces dispositifs sur pied, mais qui sont collés sur une façade, donc c'est une forme un peu de détournement. On propose effectivement de créer une distance entre le panneau sur pied et la façade. Sur les murs, plus simplement, les dispositifs muraux seront admis sur les murs de bâtiments aveugles, c'est-à-dire sans fenêtres, ou comportant des ouvertures de moins 0,50 mètres carrés. Nous proposons que notre règlement local de publicité intègre des règles de proportion en cas de doublon de dispositifs et d'harmonisation. Alors, on vous montre des schémas. On souhaite effectivement créer une certaine esthétique sur les maisons qui accueillent des publicités parce que, effectivement, les dispositifs ne sont pas toujours bien équilibrés et des fois, ils dépassent ou ils sont les uns à côté des autres et c'est pas forcément très joli. Donc on va réglementer ça et limiter donc bien sûr à 33% le total de ces dispositifs par rapport à la taille du mur. Dans ces zones seront aussi réglementés les nouveaux procédés d'affichage. Donc le micro-affichage publicitaire dont je parlais tout à l'heure sur le secteur sauvegardé, la publicité numérique, donc qui est aussi un nouveau type de publicité qui n'existait pas en 1992 lors de la constitution de notre règlement. Donc la publicité numérique scellée au sol, qui dans aucun cas ne peut être totalement interdite par un règlement local de publicité. Alors, sur cet aspect-là, moi, je souhaite, en fonction des propositions qui seront formulées par les afficheurs, qu'on ait un œil averti de la part de la mission environnement pour qu'ils étudient, ils analysent les données techniques de chaque dispositif qui sera proposé, de manière à analyser le bilan carbone du dispositif, de manière à ce que nous respections nos engagements en termes de limitation de CO2. Donc, l'installation d'un panneau numérique est soumise donc à l'arbitrage du maire ou de l'adjoint délégué, et nous travaillerons donc sur les aspects environnementaux avec les services compétents. Enfin, un autre dispositif qui n'existait pas en 1992 sont les badges de chantier sur échafaudage et les badges publicitaires, qui seront aussi acceptés mais soumises à autorisation du maire au cas par cas en fonction de leur intérêt, de leur utilité, de leur esthétique. Enfin, dernier point, les enseignes. Alors ici à Metz, les dispositions relatives aux enseignes sont déjà très importantes. Il faut savoir qu'elles sont facultatives dans le règlement local de publicité. Le maire dispose d'un pouvoir d'appréciation sur la qualité esthétique des enseignes qui sont proposés donc par les commerçants. Et en secteur sauvegardé, nous pratiquons une politique conjointe avec l'architecte des bâtiments de France, puisque nous suivons les préconisations de l'architecte des bâtiments de France qui délivre les autorisations. Et donc, d'ailleurs, à ce sujet, la DRAC a publié un excellent flyer qui est donc remis à tous les commerçants qui souhaitent réaliser une enseigne et qui explique effectivement comment on doit disposer, créer son enseigne commerciale sur le secteur sauvegardé. Hors secteur sauvegardé, ce qu'il faut savoir concernant les enseignes, c'est que les nouvelles règles nationales en vigueur depuis le 1er juillet 2012 sont beaucoup, beaucoup plus restrictives que les précédentes. Je vous donne quelques exemples. Les enseignes en façade sont désormais limitées à 15% de la façade commerciale, et si cette façade est supérieure à 50 mètres carrés. Et enfin, tout ce qui enseigne en toiture, on en trouve quelques-unes à Metz, elles seront désormais limitées à 60 mètres carrés par établissement. Voilà les grandes orientations proposées pour le règlement local de publicité. La loi Grenelle 2 est déjà extrêmement restrictive. Donc c'est vrai que, et le fait que nous ayons un secteur sauvegardé important fait que nous avons très peu effectivement de modifications à faire au niveau de notre règlement local de publicité, mais c'était nécessaire de travailler sur cette démarche. Alors moi, ce que je regrette dans cette démarche, c'est que aujourd'hui nous travaillons sur un règlement local de publicité communal. Et parce que le règlement local de publicité se vote par collectivité en fonction des compétences, et la compétence urbanisme qui concerne la réglementation sur la publicité reste communale. Il aurait été mieux effectivement qu'on puisse traiter ce règlement au niveau intercommunal, avec un transfert bien sûr de la compétence urbanisme au niveau intercommunal, parce que si la ville de Metz est globalement bien protégée par de l'envahissement publicitaire, nous savons qu'aujourd'hui le problème de l'inesthétique se situe surtout autour des entrées de ville et des zones commerciales dépénétrantes de nos agglomérations. Donc c'est mon regret dans cette démarche, mais nous n'avons malheureusement pas le choix, puisque si j'ai bien compris, un grand nombre de maires de l'agglomération ne souhaitent pas voir transférer la compétence urbanisme au niveau de l'intercommunalité. Je vous remercie.
Va avoir lieu, et je remercie les différents groupes d'avoir désigné leurs orateurs. Je les ai déjà, je vais les citer. Alors, pour le groupe Europe Écologie Les Verts, c'est Mme Isler Béguin qui s'est inscrite pour 2 minutes. Pour le groupe, groupe municipal d'Union de la droite et du centre, alors il y a 4 inscrits, Mme Zimmermann, Mme Audouy, M. Lebeau et Mme Collin-Ousterlet. Normalement, c'est 3 minutes, ça va être difficile. Hein. Rassemblement Bleu Marine pour Metz, M. Gourlot, et les conseillers municipaux isolés, M. Jérémy Aldrin. Mme Isler Béguin, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais également remercier Sébastien parce qu'effectivement, personnellement, je n'ai pas pu assister à la réunion publique qui a eu lieu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment aujourd'hui la publicité est ressentie par nos concitoyens. C'est vrai que c'était vraiment intéressant de voir les nouvelles restrictions. Donc, à la limite, si on reste dans le cadre restrictif de la loi, peut-être qu'on n'aura pas grand-chose à faire au niveau du règlement sur la publicité. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que on pourrait pas aller plus loin peut-être ? Et puis là, évidemment, je me retourne vers Grenoble. Grenoble ont supprimé la publicité. Et donc du coup, je me pose la question, étant donné que j'ai appris quelque chose, le règlement local de publicité ne peut interdire totalement la publicité. Donc je pense qu'on n'est pas là pour interdire totalement la publicité. Ça représente une rentrée financière, on le sait. Ça permet aussi des ravalements de façade, on le sait. Mais par exemple, sur le secteur sauvegardé, essayer de voir si on peut mettre en place plutôt de l'information que de la publicité. Parce que pour ma part, je suis de plus en plus sensible aux publicités et je trouve qu'elles m'agressent. Et lorsqu'on passe tous les jours devant des panneaux publicitaires, on ne regarde pas, on ne les lit pas, mais on les voit. Donc consciemment, inconsciemment, ça rentre. Donc moi, je préférerais passer à côté de l'information qui me donnerait la situation environnementale de la pollution sur la ville, qui me dirait qu'en fin d'année, il y a une conférence internationale sur le climat et que dans ces cas-là, peut-être au niveau de la voiture, le parking, etc. Donc ce genre d'informations, plutôt que de dire « bon, achète tel ou tel produit parce que c'est chouette, etc. » Donc moi, si vous voulez, j'aimerais savoir si l'état d'esprit de nos concitoyens est le même ou alors s'ils se satisfont de la publicité actuelle. Mais globalement, c'est vrai que ce qui est présenté au niveau de la réglementation, c'est plutôt pas mal. Et lorsque, quand même, on traverse la ville et le centre, ça va encore. Disons, ça va encore. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie de cette publicité qui n'amène en général quand même qu'à la consommation plutôt qu'à l'information ? Et c'est vrai que dans les débats qu'on a avec les personnes, elles nous demandent quand même plutôt les panneaux d'affichage d'opinion, combien y en a-t-il, où est-ce qu'on peut s'exprimer ? Donc, je crois qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Je vous remercie.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je ne suis pas du même groupe que Madame Isler Béguin, mais je me pose les mêmes questions. Et je dirais que, ce qui m'a le plus interpellé dans le débat, c'est... Et dans ce point, c'est effectivement la philosophie que vous voulez imprimer à ce règlement. Et je dirais que je suis retournée sur le débat sur le rapport du mois de décembre, où M. Koenig disait « La publicité est un élément fort de notre économie de marché. La publicité fait vivre beaucoup de gens. Elle est aussi un revenu non négligeable pour les collectivités. » L'exploitant des transports perçoit au niveau du mobilier urbain des recettes non négligeables pour l'exploitant dont il faut tenir compte. Il faut donc avoir une approche pragmatique. Donc, si j'ai bien compris, c'est effectivement cette approche qui a été celle au moment du choix de ce règlement de local de publicité. Deuxième questionnement, c'est au niveau du contenu de ce rapport. Bon, ce rapport, pour moi, il est quand même un petit peu succinct, si ce n'est elliptique. parce que vous nous avez montré des diapositives, elles sont sympathiques, vous avez effectivement les explications. Alors, vous nous montrez, vous nous expliquez propriété privée, domaine public, etc., les enseignes, les pré-enseignes, la publicité. Et je dirais que, pour moi, ce n'est pas suffisant comme explication. Et on ne peut pas faire un débat sur un document aussi succinct. Et à aucun moment, d'ailleurs, on a, je dirais, même d'autres propositions qui pourraient nous amener, en fait, à un choix, peut-être. Et notamment, comme l'a très justement évoqué Mme Isler-Béguin, je trouve qu'il y a beaucoup de publicité et très peu de panneaux où on a des informations. Et ça, je dirais que ce n'est pas le rôle de la ville. Et d'ailleurs, lorsque la réunion, le 5 février, a eu lieu à la mairie, certains élus ont dit que l'affichage publicitaire qui envahissait la ville était la panacée de la liberté d'expression. Alors là, excusez-moi, mais bon, moi, je ne comprends pas ce langage. C'est-à-dire, je le comprends tellement bien que je ne me sens pas du tout dans un langage de ce type-là. Et je crois que ce n'est pas ainsi que j'ai envie d'informer les médecins. Je crois que la publicité est telle qu'il est présenté, ce règlement, il agresse les médecins. Mais il ne donne pas, je dirais, l'information suffisante dans des domaines qui sont quand même relativement importants. Et alors, il y a un point quand même qui m'a interpellée également, c'est l'auteur de ce document. En effet, les affaires juridiques, alors là, c'est tout à fait normal, hein, attendez, heureusement d'ailleurs, mais Madame Christiane Melaka Nguyen, j'ai rien contre elle, hein. Attendez, pas du tout. Mais ce qui est quand même stupéfiant, c'est que quand on regarde un petit peu qui elle est experte qui a réalisé la documentation technique pour SINAFEL, c'est-à-dire pour le syndicat professionnel qui rassemble plus de 500 entreprises dans le secteur de l'enseigne, de la signalétique, du marquage et de la gravure. Alors, je pose la question, est-ce que on est dans un document objectif. Alors là, si vous voulez, c'est vrai que au niveau de la publicité, elle est au top. Ça, c'est, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, est-ce que quelque part, elle n'a pas peut-être trop influencé, la mainmise du publicitaire sur la ville? Et dernier autre point, lorsque l'on a un débat, moi je pose également une question, est-ce que quelque part on ne peut pas aussi poser vraiment le sens précis de ce que doit être la publicité? Et à ce moment-là, dire tout simplement, nous choisissions un minimum d'enseignes publicitaires et nous voulons un maximum, au contraire, de panneaux qui puissent, disons, avoir quand même un impact sur la population qui ne les agresse pas. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, en guise de conclusion, ce que je souhaiterais voir dans ce règlement, c'est d'abord, premièrement, une véritable séparation entre la notion d'enseigne et la notion de publicité stricto sensu. Ça, c'est clair. Oui, et c'est dans le document, mais je veux vraiment que ça apparaisse et que, notamment, lorsque on évoque les enseignes, il y ait vraiment un dialogue avec les bâtiments de France et que certaines enseignes, grandes enseignes, respectent ce que les bâtiments de France ont demandé. Parce que, malheureusement, on embête très souvent les petits commerçants sur leurs enseignes, et Dieu sait si certains ont été embêtés par les bâtiments de France, et d'autres grandes enseignes peuvent se permettre de scier des arbres sans aucun problème, alors que les bâtiments de France avaient demandé qu'on laisse l'arbre à un certain endroit. Donc ça, tout le monde le sait, tout le monde connaît l'histoire du permis de construire d'une grande enseigne qui se trouve rue des Clercs. Voilà. D'autre part, également, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait vraiment aujourd'hui une très grande réflexion qui soit menée sur la réduction des publicités à la fois dans les entrées de ville et une publicité intelligente. Une publicité, là aussi, bien réglementée et pas complètement anarchique. Parce que ça contribue aussi, oui, je vais terminer, effectivement, ça contribue aussi à agresser les médecins. Dernier point, là aussi, je crois qu'il y a, et ça vous l'avez souhaité, Monsieur Koenig, et là, je pense que le maire de Metz peut le demander, et ça pourrait faire l'objet peut-être d'une motion, demander que cette compétence aille à la communauté d'agglos, de cette façon, il y aurait une réflexion globale sur le règlement local de publicité, et ça serait un règlement d'agglomération. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci, madame. Alors, vous êtes présidente d'un groupe, vous avez déjà pris tout le temps de parole. Alors, madame Audouy, Lebeau, Colin Austerlier, allez-y quand même. Je vous en prie. Vous avez votre présidente qui a déjà beaucoup parlé, mais allez-y.
Merci. Alors, pour construire mon intervention, je suis partie des résultats d'une enquête menée en 2013 par la SOFRES, qui ausculte le rapport des Français à la publicité et dont il faudra corroborer les résultats avec la consultation qui est actuellement menée à Metz auprès de nos concitoyens. Mais je ne serais pas étonnée qu'il soit proche de ceux que je vais vous livrer. Voici donc une synthèse des résultats de ce récent sondage. Le premier constat montre que ces 10 dernières années ont été difficiles pour les Français qui ont affronté une situation économique et sociale délicate, altérant leur morale et leur confiance dans l'avenir, mais aussi pour la publicité, qui est plus sévèrement jugée qu'au début de la décennie. Les raisons de ce désamour tiennent d'abord à l'impact des nouvelles technologies qui ont profondément changé les façons d'acheter et de consommer des Français. Démultipliée sur un grand nombre de supports, la publicité est désormais perçue comme banale pour 64%, envahissante 79% et intrusive 78%. Mais pour autant, les Français ne condamnent pas la publicité en soi. 71% la jugent même utile dans son rôle d'information et d'accès à l'achat, mais ils marquent leur profonde désapprobation vis-à-vis de ce qu'elle est devenue et ils attendent qu'elle présente de nouveau de l'intérêt, tant sur son fond que sur sa forme. Alors, sur le fond, on ne pourra pas faire grand-chose, mais c'est notamment sur le dernier point, la forme, que nous, élus, nous pouvons agir avec le RLP. Partant de ce constat, la décision prise par les élus de Grenoble, c'est-à-dire interdire toute publicité sur son territoire, me paraît excessive. Et toute la question réside maintenant dans la recherche d'un équilibre harmonieux entre respect de la liberté d'expression, activité et rentabilité économique nécessaires d'un territoire et la protection du cadre de vie de nos concitoyens. Il existe une solution qui peut tenter une conciliation de tous ces enjeux, la rareté publicitaire. Cette notion renvoie tout simplement à la diminution numéraire des espaces publicitaires, en même temps qu'à leur meilleure répartition territoriale et à leur gestion optimisée. Cette technique, monsieur le maire, vous donne un rôle prépondérant dans la charge de valoriser l'espace public publicitaire. Dans cette optique, je pense que le mobilier urbain est un atout de valorisation de cet espace, parce qu'on doit reconnaître, enfin je le pense sincèrement, on doit reconnaître à la société Deco qu'elle a su mettre en valeur une publicité qui change des grands dispositifs, inesthétiques et imposants. Ce sont d'ailleurs souvent ces derniers qui sont décriés. Son mobilier urbain se veut plus discret et sobre. Vous pourrez procéder à des ajustements en nombre ou en emplacement, mais ils ne génèrent pas, à mon sens, de pollution visuelle et il serait inutile de les supprimer, y compris dans le secteur sauvegardé. Alors, pour la publicité numérique, j'ai fait quelques recherches et il s'avère que la publicité numérique sur panneaux d'affichage dynamique à diode est respectueuse de l'environnement car elle utilise une technologie qui est saluée pour sa faible consommation énergétique, la diode, qui consomme 10 fois moins par exemple que les halogènes. De plus, tous les bilans carbone établis pour comparer l'activité de l'affichage papier par rapport à l'affichage sur écran à diode ont démontré l'avancée environnementale que représente ce nouveau mode de publicité. Enfin, l'affichage dynamique permet de lutter contre la multiplication des panneaux publicitaires, puisqu'en un seul endroit, il peut centraliser des dizaines d'annonceurs. Il est donc en phase avec la préconisation énoncée précédemment de raréfier et rationaliser la présence publicitaire de l'espace urbain. En conclusion, parmi les enjeux économiques, environnementaux ou de liberté d'expression, aucun ne peut entièrement supplanter l'autre et il faut une conciliation, une cohabitation. Merci.
Merci madame. Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, je serai très synthétique et très court, ça changera, vous me direz. Donc, un regret, c'est qu'il manque dans ce document une stratégie. Le premier point aurait dû être quelle stratégie on veut adopter dans ce plan. Je vous propose une double dynamique. Premier élément, c'est préserver le cadre de vie. La publicité est partie prenante de notre univers quotidien. Dans une démarche environnementale, je pense qu'on est tous d'accord qu'on souhaite diminuer la pollution visuelle. Mais dans la deuxième dynamique, c'est aussi de préserver le dynamisme commercial de notre ville et diminuer le carcan administratif insoluble qui a déjà été créé avec la taxe de publicité locale sur les enseignes, qui est d'une complexité rare, d'une lourdeur administrative insensée et d'un coût pour les commerçants énorme, puisque avant on ne payait pas les enseignes. Donc maintenant le petit commerçant paye une taxe qu'il ne payait pas avant. Alors ce que je souhaiterais dans ce débat d'orientation sur la publicité, c'est que on préserve, on fasse quelque chose de simple, de réaliste, et que ça ne soit pas trop technocratique dans la mise en œuvre, et que nos commerçants ne se grattent pas les cheveux à chaque fois en se disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et que ça soit simple. Et dernier point, c'est que je souhaite également, si c'est possible, d'augmenter les affichages libres, parce que c'est bien quelque chose qui manque à Metz, c'est le nombre de surfaces d'affichage libre. Je vous remercie, monsieur le maire.
Merci, monsieur Lebeau. Madame Collin-Austerlé.
Oui, monsieur le maire, effectivement, c'est difficile de parler de ce règlement sans évoquer la taxe locale sur la publicité extérieure, sur laquelle je voudrais dire quelques mots. C'est vrai qu'elle a été instaurée à Metz. Effectivement, ça procure des recettes très importantes, plus de 800 000 euros par an. La genèse, en fait, l'objectif de cette taxe, c'était effectivement d'éviter la pollution visuelle aux entrées de ville. Bon, est-ce que c'était le cas pour Metz? Je ne le crois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement les grandes enseignes qui la payent, mais également des indépendants et des indépendants qui souffrent, nonobstant la dynamique commerciale clamée ici et là. Je voudrais citer par exemple Mezzanine, 40% de cellules vacantes. Alors, on parle effectivement de l'installation d'un Burger King. Ça n'est pas forcément un signe d'attractivité d'une ville. On sait qu'aujourd'hui, Burger King installe un restaurant par semaine en France. Donc, je ne pense pas qu'il faille en tirer des enseignements qui me semblent hasardeux. La vraie question qui se pose aujourd'hui pour ces commerçants, c'est comment attirer du monde sans enseigne. Alors, la pression fiscale est souvent devenue insoutenable pour bien des commerçants. D'autant que la densité commerciale de notre territoire est une des plus importantes, avec Bordeaux et Toulouse, et ce, alors même que nous perdons de la population. Et la possibilité de voir se développer aujourd'hui des friches commerciales, ou en tout cas dans les années qui viennent, est malheureusement très forte. Depuis 2011, je voudrais rappeler que sont actés 100 000 m² de surface commerciale supplémentaire dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres. 42 000 m² pour Oise, 29 000 pour Terreville, l'espace Muse, 38 000 m² avec 110 boutiques et ce deuxième poumon dont on nous laisse penser qu'il n'aura pas d'incidence sur la vitalité du centre-ville. Moi, je pose une question, comment voulez-vous que nos commerces du centre-ville s'en sortent? On avance des chiffres de 300 cellules vacantes, je ne connais pas bien le périmètre auquel on se réfère. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des chiffres, il suffit de se promener en centre-ville pour constater l'ampleur des dégâts, car on parle volontiers de ceux qui ouvrent, mais jamais de ceux qui ferment et qui sont malheureusement bien plus nombreux. La cause, on la connaît, l'existence l'absence d'un schéma d'agglomération de développement commercial que nous réclamons depuis bien trop longtemps. Le prix des parkings, évidemment, qui a augmenté pendant que Nancy, 4 euros la journée du samedi, et Thionville, gratuité, ont mis en place une politique tarifaire attractive pour maintenir leur cœur de ville attractif. Et maintenant, la fermeture du cinéma commercial du cœur de ville. Alors, je conclue, monsieur le maire, chez nous, le coup est parti, malheureusement, mais il va falloir trouver des solutions. Et outre la politique tarifaire qu'il est absolument nécessaire de revoir, Je pense particulièrement à ces contrats de revitalisation artisanale et commerciale créés par la loi Pinel, lesquels concernent notamment les zones touchées par la dégradation de l'offre commerciale et qui permettraient de recourir plus aisément au droit de préemption. C'est une des solutions qui pourrait notamment être expérimentée dans le quartier Outre-Seille. Je vous remercie.
L'eau, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le maire. Voilà. Alors, nos questions, c'est sur le sujet, c'est est-ce que cette réglementation d'exception qui concerne le nouveau secteur protégé s'appliquera aussi à la délimitation préexistante ? Car il faut être très attentif à cela. En effet, le danger que le périmètre actuellement protégé subisse les assauts de la pub pour faire rentrer de l'argent devant la fuite en avant des finances publiques. Rien ne nous prouve que la ville ne s'engouffrerait pas dans cette brèche. Pouvez-vous nous rassurer à cette heure ? Ensuite, l'étude d'impact a été faite par un cabinet privé qui a travaillé d'ailleurs pour un lobby de publicitaires Sinatel. Pourquoi pas ? Mais bon. Étude présentée le 5 février 2015 à la mairie. La représentante, en tous les sens du terme, disons, représentante de ce cabinet, nous a prévu moins de pubs, mais concernant les recettes seraient stables. Donc ça, c'est intéressant. Nous aimerions connaître cette recette d'alchimiste qui permet de transformer le plomb en or. Toujours dans les petits détails, mais des fois, ils ont leur importance, il y a un recueil qui est censé recevoir les habits des habitants qui est à disposition au secrétariat de l'accueil de la ville. Ce recueil, puisqu'une personne que je connais qui a été le voir, il n'y avait rien d'écrit dessus. Alors, peut-être que la publicité en la matière a été pas géante ou intéresse pas. Enfin, les gens, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir. C'est bien qu'il y ait des recueils, c'est bien qu'on demande l'avis des médecins, mais c'est bien aussi que les médecins soient au courant de l'existence, disons, de ce recueil afin qu'ils puissent donner leur opinion. Lors de cette réunion publique aussi, l'adjoint Sébastien Koenig s'est engagé à faire respecter l'affichage libre une fois la révision du règlement local de la pub révisée. Or, la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée précise que ces emplacements d'affichage sont réservés aux associations ou à toute personne voulant passer une annonce gratuitement sans but lucratif ou commercial. Certaines communes, d'ailleurs, réservent des panneaux par type d'affichage en distinguant trois catégories. L'affichage d'expression politique, l'affichage associatif et l'affichage d'expression libre. Il a noté que dans la plupart des communes, l'affichage d'opinions et des associations sans but lucratif est autorisé sur les palissades de chantier, article L581-16 du Code de l'environnement. Plus que jamais, ce qui a été signalé d'ailleurs par ailleurs, plus que jamais en cette période électorale, il est indispensable de faire respecter cette loi afin d'éviter l'affichage sauvage. Car ce qui se passe, c'est qu'il y a des panneaux d'expression libre. Mais ces panneaux d'expression libre, elles sont détournées par des afficheurs professionnels qui affichent pour des spectacles payants de grandes sociétés que l'on connaît. Alors moi, j'aimerais savoir quand même, parce que, et donc ça entraîne forcément par ailleurs, les gens qui ne peuvent pas s'exprimer sur les panneaux d'expression libre vont trouver d'autres lieux d'expression et dégrader ainsi le reste. Donc j'aimerais savoir quelles sont les possibilités de la ville, légales, même de sanctions, pour permettre aux panneaux d'expression libre d'être réservés justement à ceux qui ne sont pas payés pour ça. Ça, je crois que c'est quand même important. Il y en a, mais il faut faire respecter quand même la loi et la liberté d'expression en la matière. Puisque les interlocuteurs précédents ont parlé de choses et d'autres, par exemple, j'ai entendu Madame Marie-Josie Merman qui a défendu les arguments avec talent de Basta, qui était sur leur Facebook. C'est savoureux, d'ailleurs, argument que nous partageons par ailleurs. Je le dis, c'est pas parce que... Et même si Basta fleurit d'ailleurs le mobilier urbain avec leurs petites affichettes, faute d'accès à l'affichage libre d'ailleurs aussi. Enfin, il y a été aussi question sur le sujet soit discuté par Metz Métropole. Certes, mais si les recettes, est-ce que les recettes iront à Metz Métropole? En ce cas-là, la ville y perdrait quand même. D'autres détails comme ça qui me viennent, le métis. Les métis, il y a de la publicité, mais qui est loin de l'abri. Des abribus du métis, je parle. Il y a des abribus du métis, la publicité, mais qui n'est loin de l'abri, qui ne protège, et qui est désolidarisé, du socle de l'abri, et qui ne protège pas. Et là, c'est les personnes. Alors, une publicité intelligente, ça serait peut-être une publicité qui protège aussi, du vent, etc. Bon, ça, il y a peut-être quelque chose à revoir là-dessus. J'entendais aussi Mme Collin-Osterlet qui nous parlait de la taxe sur les enseignes, etc.
Vous ne répondez pas à Mme Collin-Osterlet, si vous parlez à tout le
ouais,
monde.
Oui, à tout le monde, parce oui, que oui, oui, tout voilà. à l'heure, le groupe Front National avait déposé en son temps un amendement là-dessus, qui n'a pas été voté même par l'opposition ici présente. Alors c'est savoureux aussi. Aujourd'hui, on dénonce des choses qu'on n'a pas votées hier, mais, enfin, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors le tout, ce n'est pas de dénoncer, c'est de le voter et de l'approuver.
Adressez-vous à moi.
Voilà. Voilà ce que je voulais dire aussi. Il y a aussi autre chose qui peut choquer, parce que j'ai entendu des touristes à Metz, c'est sur les grandes bâches qu'il y a parfois sur l'office du tourisme, alors avec des propos, bon, certes, qui intéressent la commune, la publicité locale, enfin pour nous, pour événementiel. Mais les gens qui veulent faire des belles photos avec des beaux monuments, parfois aimeraient mieux pouvoir la pierre de Jaumont que ces trucs événementiels qui gâchent un peu la qualité artistique de nos monuments. Voilà, je vous remercie.
Merci. Monsieur Aldrin, dernier orateur inscrit.
Oui, merci monsieur le maire. Je serai rapide pour vous dire que dans ce débat, premièrement, par rapport à Grenoble, dont il a été question à plusieurs reprises, la municipalité de Grenoble s'est privée du jour au lendemain d'une recette de 600 000 euros. Il faut quand même le préciser, parce que c'est bien sympathique ces visions utopiques, mais il y a aussi des configurations économiques et financières. Deuxième élément, je crois que le maître mot qui doit prévaloir dans ce débat, c'est l'harmonisation, le mot harmoniser. Alors, harmoniser, évidemment, au sein de l'agglomération, l'adjoint Koenig a indiqué que ce n'était pas possible au regard de la compétence urbanisme. Enfin, il me semble malgré tout que nous sommes dans une démarche de concertation. Rien n'interdit le maire de Metz de discuter avec le maire de Montigny et le maire de Marly, par exemple, pour s'assurer que les règles, quand on va emprunter l'avenue du 20e corps américain à Metz, soient les mêmes que l'avenue Fragnat à Montigny, et puis la même quand on arrive à Marly par la suite. Ça me semble être le minimum, même si nous ne sommes pas dans un règlement local de la publicité communautaire. Même chose avec Voipy, enfin, au moins à minima avec les communes qui entourent directement notre ville. Parce que l'entrée de ville et l'entrée d'agglomération est évidemment une chose importante. Harmoniser aussi par rapport aux zones commerciales, pour répondre évidemment aux besoins des différents acteurs locaux. En clair, mezzanine doit être traité au même niveau et les mêmes capacités que les autres zones commerciales. C'est vrai qu'on a entendu ces dernières années les représentants de mezzanine se plaindre en ce sens. Je voudrais enfin terminer également sur l'affichage sauvage qui pullule actuellement d'ailleurs dans cette période électorale avec une règle très simple, hein, c'est qu'il faut envoyer la facture, monsieur le maire, aux partis politiques, aux syndicats qui contribuent à cette pollution visuelle en dehors du champ réglementaire et ils doivent donc payer. Merci monsieur le maire.
Merci. Y a-t-il des points techniques sur lesquels M. Koenig voudrait intervenir,
oui,
si jamais il ne s'était pas complètement exprimé?
Oui, allez-y, il y a quelques petites choses qui me semblent nécessaires d'être précisées. Alors déjà, préciser effectivement que ce document est là pour susciter le débat. Donc c'est une réussite, ce n'est pas le règlement lui-même. Donc le règlement, il vous sera soumis prochainement et bien sûr, il fera l'objet de nouveau d'une discussion et la philosophie du règlement, elle est très claire. Il s'agit de protéger le cadre de vie tout en trouvant le juste milieu avec le développement économique et le fonctionnement du commerce. Alors j'ai constaté que sur les bancs de la droite, il y avait de grosses divisions parce que moi, j'entends Madame Zimmermann nous dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus restrictif. Mais Madame, vous l'avez votée, cette loi. Pourquoi vous n'avez pas fait des amendements à l'Assemblée nationale? Mais bien sûr que si, le Grenelle 2, il a été voté par votre ancien gouvernement. Alors Madame, donc pourquoi n'avez-vous pas déposé des amendements pour demander que ça soit plus restrictif? Alors concernant Grenoble...
Monsieur Koenig, vous avez la parole, allez-y.
Concernant Grenoble, je tiens à préciser que le maire de Grenoble n'a jamais interdit la publicité. Le maire de Grenoble a mis fin à un contrat qu'il avait avec la société Deco. Et la communauté urbaine d'agglomération de Grenoble a toujours un marché avec la société Deco pour la gestion des arbres et la publicité sur propriété privée n'est toujours pas interdite. Donc, effectivement, et là je rejoins M. Aldrin, la mairie de Grenoble s'est privée de 600 000 euros de recettes d'impôts fiscales
que nous à Metz, nous ne souhaitons pas nous priver de ces recettes. Il faut être très clair. Voilà. Alors, madame, vous parlez de la TLPE, c'est autre chose. Vous avez les recettes des concessions sur le mobilier urbain. Donc, elles sont non négligeables. La taxe locale sur la publicité des enseignes s'est substituée à une autre taxe, à d'autres taxes qui existaient avant, la taxe sur l'affichage et la taxe sur les enseignes. Oui, il y avait la taxe sur les enseignes. Et je tiens aussi à rappeler que nous avons décidé de l'exonérer en dessous de 7 mètres carrés cumulé, ce qui ne touche pas en aucun cas le petit commerce. Ce sont les grosses enseignes qui sont touchées par cette taxe, c'est la vérité. Ne cherchez pas à nous expliquer qu'on est en train de tuer le petit commerce avec la TLPE, c'est totalement faux. Et c'est totalement faux.
Laissez parler, monsieur Koenig,
je peux vous dire
que
j'ai les relevés de tout ce
on
qui
vous
est,
a écouté religieusement, laissez parler, monsieur Koenig.
Aucun, monsieur Lebeau, vous faites de la démagogie sur le sujet, j'allais dire que j'étais d'accord avec vous sur d'autres points, mais là, sur le sujet-là, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est faux, il y a très peu de commerces de l'hypercentre qui sont taxés à ce sujet. Ensuite, non mais merci, c'est déjà mon canton, merci. Alors, sur ce qu'a dit Madame Zimmermann, bon, moi, je ne suis pas législateur, madame, vous êtes députée. Moi, je ne peux pas faire expliquer dans le règlement qu'il faut augmenter la différence entre les enseignes et la publicité. Le législateur a défini dans les codes législatifs les différences entre enseignes et publicité. Donc, pareil, là, je vous invite effectivement à revoir tout ça au niveau national. Ensuite, M. Aldrin a posé la question de la concertation avec les maires des communes, et vous avez tout à fait raison, puisque la démarche oblige la concertation, non seulement avec les communes limitrophes, mais en plus de ça, avec l'agglomération et les services de l'État, et le Conseil général et le Conseil régional. Donc, ce qu'on appelle la réunion avec les personnes publiques associées, ce sont ces collectivités. Alors, malheureusement, je n'ai pas dû avoir de succès pour cette réunion, puisque la seule mairie qui est venue était représentée par un adjoint au maire de Saint-Julien. J'aurais effectivement souhaité que les maires des autres communes soient là. Mais bon, c'est malheureux. Si vous les connaissez, vous pourrez leur expliquer effectivement que vous avez aussi regretté qu'ils ne soient pas là. Ensuite, bien sûr, les zones commerciales, il faut les laisser se développer, il faut y autoriser la publicité, c'est essentiel si on veut avoir du développement économique. Et donc, il faut permettre autour de ces zones, effectivement, des panneaux publicitaires. Pour ce qui concerne le secteur sauvegardé, je le redis, il est protégé. Le secteur sauvegardé ancien était déjà extrêmement protégé et on ne fait effectivement que faire poursuivre la protection au secteur étendu, il n'y a aucun risque supplémentaire et nous nous protégeons bien. Ensuite, je regrette que Mme Zimmermann fasse les poubelles parce que je ne sais pas où elle a lu que Mme Mélaka avait travaillé pour un syndicat de publicitaires. Oui, ben, madame, il faut toujours se méfier de ce que vous trouvez sur le net. Mme Mélaka a effectivement écrit un article à titre gracieux pour le syndicat, mais pas des publicitaires, madame, des enseignistes. Elle a donné des conseils et pas du tout les publicitaires. Vous mélangez tout. Non, non, vous êtes mal renseignée, madame. Non, non, pas du tout. Non, non, mais je...
La parole est à monsieur Koenig.
Je crois que j'ai répondu à...
Merci, monsieur Koenig.
Sur l'affichage livre, excusez-moi, monsieur le maire, sur l'affichage livre, il faut savoir qu'il y a une règle et que pour Metz, nous devrions être à 72 mètres carrés au total selon le droit. Nous sommes aujourd'hui à 220 mètres carrés de surface cumulée avec 55 panneaux d'affichage libre disposés sur différents points de la ville et 13 colonnes aussi où on peut effectivement exercer l'affichage libre. Alors c'est vrai que c'est utilisé aujourd'hui par certains distributeurs, producteurs de concerts et je compte effectivement rappeler à l'ordre tout ce petit monde de manière à ce que les associations, les syndicats, les partis politiques puissent s'exprimer sur ces espaces publicitaires. Nous allons les réunir et dans le cadre de cette démarche du règlement local de publicité pour leur rappeler les règles. Mais effectivement, ces espaces ne sont pas faits pour accueillir des informations à titre commercial. J'en ai fini, monsieur le maire.
Merci. Écoutez, merci pour ce bon débat. Je voudrais ajouter un point sur quelque chose que j'ai lu dans Républicain Lorrain et qui a été repris par M. Gourlot, c'est le fait qu'on soit pas, on soit exposé au vent quand on est dans les abribus. Alors, M. Gourlot, je vais vous expliquer. Et la personne qui avait fait un article, enfin une lettre, elle était difficile à... Je ne peux pas lui répondre parce que c'était des initiales, hein, indiquer comment se fait-il qu'on ne mette pas, comme autrefois, les éléments publicitaires le long des abribus, hein, et qu'on les mette séparés de quelques mètres. Voilà. Et bien, je vous donne la réponse. C'est qu'il a été décidé que les handicapés devaient pouvoir prendre le métis. Et partout, il a été décidé que les handicapés pouvaient accéder. Et pour manœuvrer avec un fauteuil, il a été, et quelque part ça présente un inconvénient, vous avez raison, il a été décidé qu'on ne pouvait mettre que des panneaux qui faisaient à peu près 50 cm de large sur le côté des ouvrages. Sinon, eh bien, la manœuvre du fauteuil ne se faisait pas. Il y a des normes et nous avons effectivement commencé un programme important d'aide au déplacement des handicapés. Alors la réponse, vous l'avez. La réponse, elle est aussi pour la dame qui a envoyé un article en disant que c'était stupide, elle avait fait comme vous, ils n'ont même pas compris. Ben voilà, il y a une explication, elle est sérieuse. J'ai présidé au travail sur le métis et j'ai fait la remarque, figurez-vous. Pourquoi est-ce qu'on ne mettait pas des grandes largeurs avec... Et on m'a expliqué pourquoi, j'ai très bien compris. Et finalement, il faut accepter d'être un peu au vent, hein, il faut accepter d'être un peu au vent pour permettre à des handicapés, parce que tout ce qui arrange les uns peut quelquefois légèrement déranger les autres. C'était un premier point. Deuxièmement, je remercie Mme Audouy d'avoir expliqué que finalement, ce n'était pas la catastrophe à Metz. Mon prédécesseur avait passé des accords. Après ça, il y a la finance derrière. Là, on peut discuter de la façon dont on peut en tirer quelque chose pour la ville. Mais il y a eu des mobiliers urbains qui, globalement, avaient un certain intérêt. Certains étaient violents. Il y en a qui ont été retirés. C'est les fameux Mupi seniors, hein, qui étaient violents. C'était des grandes croix, vous vous souvenez, peut-être. Mais d'autres... Sont, disons, tout à fait acceptables, et certains membres sont même élégants. Il y en a plusieurs qui sont passés, là. Il y a les colonnes Maurice, assez amusantes, avec le cinéma qui abrite quelquefois les toilettes, etc. Et moi, je pense qu'il faut rester ouvert sur ce secteur-là. Je vous assure qu'on ne fait rien dans le secteur sauvegardé sans l'accord. L'architecte des bâtiments de France, c'est évident, hein. J'ai multiplié par 7 la surface du secteur sauvegardé, donc on s'est exposé à davantage de restrictions dans tous ces secteurs-là, volontairement. Je dis bien volontairement. Et le troisième point, j'ai une petite faiblesse pour l'affichage que quelques-uns ont baptisé de libre, et moi que j'appelle militant, parce que j'ai de la bouteille. Et il n'y a sans doute pas beaucoup de gens ici qui ont connu autant d'affiches que moi, même des 4 mètres sur 3, parce que moi je savais le faire. Hein, et je l'ai fait, et je l'ai fait souvent. En 6 morceaux séparés. En 6 morceaux séparés. Eh bien, je vais vous dire, je regrette que l'affichage militant soit difficile. Et je le regrette. Et vous aurez beau inventer tous les systèmes que vous voudrez, il y a des gens qui sont payés pour coller sur les espaces militants. Ils sont payés en particulier par les groupes de musique, qui sont tous sauf des amateurs, même si c'est des associations qui les invitent. Et ces groupes sont payants. Leurs places sont payantes, mais non, parce qu'en réalité, c'est collé au nom d'associations, parfaitement respectables. Ça peut être une association de Florence, je ne vais pas la citer, une autre association, etc. Et au bout du compte, notamment, beaucoup d'associations, je me souviens, de performances de collages, de colleurs qui venaient d'Amnéville et autres lieux. Hein, au bout du compte, c'est très compliqué de séparer les différentes formes de liberté. Et je n'ai pas trouvé la solution. Hein. En tout cas, la mauvaise solution, c'est de mettre des stickers, comme on dit, avec des colles qui ne sont pas des colles cellulosiques sur les poteaux. Parce que ça abîme le matériel municipal. Et ça mérite par contre des amendes. Mais pour le reste, nous avons un certain nombre de mètres carrés. Je crois qu'il y a 40-45 mètres carrés disposés un peu partout dans la ville. Je ne me rappelle plus du chiffre exact. Combien on a de mètres carrés d'affichage libre ? 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, c'est plus que ça. 200 mètres carrés d'affichage libre, c'est considérable, sauf que essayer de faire tenir une affiche 3 jours sur ces endroits-là, vous avez des endroits où il y a 15 cm et on est obligé d'arriver avec des outils importants pour déchirer tout ça. Et donc, c'est compliqué. Il y a la solution nulle part, parce que vous savez, ou alors à mettre sous clé hein, comme dans les panneaux des écoles pour les fédérations de parents d'élèves. Donc voilà ce que je peux dire. Moi, je vous remercie de ce débat. J'espère que les gens vont s'y intéresser, ne serait-ce que à cause de la qualité de ce qui a été dit ici. Hein. Madame, vous avez largement parlé, et là, il n'y a pas de vote, donc il n'y aura pas d'explication de vote.
Local. Donc, on interprète et on est en train de travailler sur par rapport à cette loi.
Madame, vous l'avez
donc, il n'y a pas d'amendement. Deuxièmement, l'article, je l'ai en ma possession, je n'ai pas fait les poubelles. Et cet article, je vous invite à le lire. Et à partir de là, je pouvais quand même poser la question sans me faire agresser et me dire que je faisais les poubelles.
Alors,
merci, monsieur.
Enfin, dernier point que je voulais apporter, c'était à une question de madame Colin-Austerlé. Oui, comme ça, on fera avancer le débat. Est-ce qu'on peut discuter avec les voisins et faire quelque chose en commun? Je vais vous dire que c'est prévu aussi par la loi. La loi, tout simplement, c'est qu'on est en train de s'orienter vers un PLUI. Ce n'est pas encore certain, mais ça a bien avancé ce matin, je peux vous le dire, parce que c'était à l'ordre du jour ce matin de nos débats en réunion des maires et des vice-présidents, dont certains sont ici présents. Et si nous avons un PLUI, nous aurons un règlement en commun. Et les transferts d'argent, je vous rappelle, tout est prévu pour que personne ne soit lésé. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien faire, quand il y a des transferts, les additions, les soustractions qui vont bien pour que personne ne monte au créneau en disant c'est insupportable. Et enfin, sur le schéma de développement commercial, eh bien, ça existe dans le SCOTAM. Le SCOTAM a été... c'est vous qui avez peut-être posé la question sur le SCOTAM. Hein, sur le schéma de cohérence... Le schéma de développement commercial, eh bien, la réponse est oui, ça existe. Il est définitivement adopté, ça s'appelle le SCOT. Et le nôtre s'appelle SCOTAM, et il est dedans. C'est-à-dire, il est en toutes lettres, il figure. Il y a un schéma de développement commercial pour toute l'agglomération, c'est-à-dire pour une cohérence d'ensemble du problème. Voilà, merci pour ce débat. Hein. Je